La permaculture est bien plus qu'une nouvelle approche du jardinage. C'est une philosophie de vie où animaux, insectes, êtres humains, plantes et micro-organismes vivent en harmonie dans un environnement sain et autosuffisant. Le mot permaculture, en lui-même, c'est la contraction de agriculture permanente. Il fut inventé dans les années 70 en Australie. Il vise à faire de son lieu de vie un écosystème harmonieux, productif, autonome, naturellement régénéré et respectueux de la nature et de tous ses habitants. Un jardin en permaculture a vocation à remplir plusieurs fonctions. En plus de la production alimentaire de fruits et légumes au potager, il peut servir à la production de plantes médicinales, d'herbes aromatiques, de fleurs mellifères, à la production de matières végétales pour l'artisanat, mais aussi à la création d'espaces de vie relaxants, romantiques ou ludiques. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Portail du Cru. On a souvent évoqué la permaculture avec notamment des grands chefs. Petit à petit, ça se développe dans les villes, pas qu'en France, à l'étranger également. Mais on n'en a jamais fait un sujet. Et bien voilà, ça va être chose faite aujourd'hui à vous qui cuisinez, vous qui vous servez des légumes et des fruits crus. Et bien voilà, nous allons aller dans un endroit où justement, on cultive tout cela. Ça s'appelle « Ceux qui s'aiment ». On pourrait l'écrire de deux manières différentes. On pourrait l'écrire d'une manière aimée et d'une manière semée. Vous avez choisi, Sylvain Leroux, la manière semée. Cher Sylvain, bonjour.
Salut Pascal. Alors, on sème des petites graines. On sème beaucoup aussi. Je suis avec ma compagne sur ce fabuleux projet. Oui, on sème et on sème.
Donc, il y a beaucoup d'amour.
Oui, beaucoup d'amour
dans cette semence.
Dans l'idée de la permaculture, qui est un des concepts qu'on peut utiliser ici, il y a prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager équitablement. Et si on ne le fait pas dans l'amour du partage, dans l'amour du respect de notre environnement, on se retrouve à péjorer notre bien-être, notre climat où on est. Et là, c'est vraiment pas du tout ce qu'on cherche.
Alors, Ceux qui s'aiment est une ferme pédagogique, maraîchère, agro-écologique, donc bio. Est-ce qu'on peut dire que tu es un permaculteur, ça se dit ?
Alors oui, on peut utiliser ce terme-là. La permaculture, pour nous, fait partie, comme tu l'as très bien proposé dans ton exposé, on utilise une grande boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, il y a les outils de la permaculture, mais on utilise aussi la permaculture humaine, qui est pour moi un principe éthique qui régit un peu notre activité du quotidien. C'est-à-dire, je le redis, prendre soin de la nature, prendre soin des hommes et partager équitablement. Et autour de ces principes-là, on a des principes.
Alors, vous êtes installé en plein cœur d'une ville qui vous loue votre espace, comme ça se fait dans la plupart des cas. Vous faites pousser de tout, ce qui prouve que justement, sur n'importe quelle terre, on peut faire pousser de tous, on fait ça de manière intelligente. Il y a quand même une technique pour tout cela, parce que la terre qui est ici, c'est peut-être pas la même à 1 km d'ici, et puis à 2 km de là-bas. Donc, comment on s'y prépare? Parce que là, on sait qu'on est sur des anciennes serres à la base, mais quand vous êtes arrivé, il a fallu de nouveau dire, alors comment elle est cette terre ou autre? Qu'est-ce que je vais y mettre? Sachant que, on reste dans le bio, donc on met aucun produit chimique, déjà à la base,
Alors, pour répondre à ta question, déjà en préambule, ça a été un sacré challenge d'essayer de convaincre à la fois le politique, d'essayer de mettre à disposition d'une activité vivrière un terrain en cœur de ville, à quelques pas du lac, avec cette pression foncière qu'on connaît dans notre territoire. Donc, c'était vraiment un challenge d'essayer de motiver. Donc, nous, on vit aujourd'hui sur un bail précaire de 4 ans. On espère qu'à l'issue des 4 ans, on puisse continuer. Ici, on a eu beaucoup de chance sur ce terrain-là. Pourquoi ? Parce que c'était, comme tu l'as très bien dit, des anciennes serres municipales. Donc des serres où ils n'utilisaient absolument pas de produits chimiques depuis plus de 10 ans. Donc ils étaient en PBI, en protection biologique intégrée. Ce qui a fait qu'on a très rapidement pu transférer ces terres-là en agriculture biologique. Alors agriculture biologique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, comme tu le vois derrière toi, on produit des légumes en pleine terre. Ici, au-delà de produire des légumes en pleine terre sur cette terre, nous, on a trois autres choses différentes, c'est-à-dire qu'on utilise zéro plastique à usage unique, on n'utilise pas de produits chimiques, même ceux qui pourraient être utilisés en bio. Par exemple, je prends l'exemple d'une huile essentielle d'agrumes pour lutter contre des acariens, les agrumes en Haute-Savoie, j'ai eu beau chercher, on n'en trouve pas beaucoup. Et troisième chose, on n'est que en semences paysannes. Donc, c'est-à-dire que tu aimes la tomate, tu prends ces semences, tu la replantes, tu as ta tomate. on n'est pas pieds et poings liés à une industrie qui nous forcerait d'aller vers telle ou telle variété qui ne serait pas adaptée à notre territoire.
D'accord. Tiens, en parlant de tomates, j'ai vu qu'il y a 90 variétés.
Oui, cette année, on est un peu comme des gamins avec ma compagne, tu sais, face au catalogue de jouets, ouais. À quelques semaines de Noël. Ah, mais celle-ci, ah, mais excellent, on pourrait la faire goûter. Et puis celle-ci. Ah. Puis à la fin, tu te retrouves à planter 90 variétés de tomates, 2000 plants. Donc oui, on a 2500 plants à la vente. C'est des choses qui pour nous sont très importantes de démontrer qu'on est en dehors des 6 ou 8 légumes traditionnels qu'on va retrouver dans les grandes surfaces. On a une richesse qui est absolument sans limite.
Ouais,
donc,
vois, ouais.
À nous de la proposer, à nous de la proposer aux restaurateurs, à nous de la proposer aux gens de notre territoire, pour qu'on ait un éventail large. Parce que si on n'est que mono-axé sur quelque chose, ben là, tu ne vas plus rentrer dans un esprit de permaculture. Tu vas rentrer vers quelque chose de monoculture. Et quand tu regardes dans une forêt, ce n'est pas une monoculture la forêt. Tu es avec des arbres différents, des charmes, des frênes, des hêtres. Et ce qui fait que c'est dans la forêt. Et bien là, si on prend l'exemple de la tomate, si tu prends qu'une seule tomate, l'aroma, mais elle va venir de telle date à telle date. Et après, si tu veux produire en dehors, ben tu ne vas plus utiliser ton sol de la même façon. Tu vas le dégrader, tu vas tirer des ressources de ça. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Donc l'idée de la permaculture, oui, elle y est. Elle y est carrément dans le fait de aussi proposer une grande variété de produits.
On retrouve donc différents produits à différentes périodes de l'année. Là, par exemple, on est au printemps, on n'a pas encore les tomates, justement. Mm-hmm. Mais tu as essentiellement des légumes verts,
alors,
en majorité.
On propose beaucoup de légumes, ce qu'on va dire, à croissance rapide, pour la simple et bonne raison qu'on est contraint par le foncier ici. On est sur un tènement qui fait 5000 m² qu'on loue avec la mairie sur le bail précaire dont je t'en parlais. Mmh. Et sur ces 5000 m², il faut bien savoir que sur 5000 m², on ne produit que sur 2800 m². Pourquoi ? Ben parce que tu as les passe-pieds, tu as les routes pour aller à la serre, ainsi de suite. Donc sur 2800 m², si on veut avoir cette idée de partage équitablement, donc que le maraîcher puisse aussi vivre de son activité, ça c'est essentiel.
Bien sûr.
Qui n'en souffre pas de cette activité. Eh ben, il faut des légumes à croissance rapide. Et les légumes à croissance rapide, on va se retrouver avec des légumes à feuillage. Je vais prendre l'exemple du poireau. Le poireau, c'est presque comme un enfant. C'est 7 à 9 mois au champ. Donc ça veut dire que pendant ces 7 à 9 mois, tu ne peux pas avoir une autre culture qui va te permettre une certaine rentabilité. Donc pour nous, oui, les légumes longs, les légumes racines comme la carotte aussi, c'est des légumes à 4 à 5 mois, tu vois. Donc on ne va pas vraiment pouvoir aller dans cette dimension de légumes qui sont très racines et très longs au champ. C'est pour ça qu'on est sur des légumes verts, mais pas que.
Mais finalement, c'est ce qui plaît, quoi, parce que bon, il y a plus de légumes que de fruits, on est d'accord. Mmh, mmh. Hein, voilà, c'est ce qui plaît. On a vu, il y a des ensembles avec sous serre et à l'extérieur. Donc, sous serre, c'est pour les pousses rapides, on va dire.
Alors, sous serre, il y a deux choses. Donc, ta réponse est très juste. C'est l'effet de serre qui fait que, avec nos conditions pédoclimatiques, donc du sol et du climat, eh ben, on voudrait avoir des légumes assez tôt en saison. On voit bien qu'il y a encore 4 semaines, chez nous, on avait 20 cm de neige. Voilà. Donc, 20 cm de neige, ça rend un peu compliqué.
Pousse, voilà. Bien sûr.
Donc, oui, ça va nous permettre d'avoir une primeur. Des légumes primeurs, mais aussi la serre, elle permet une certaine chose. Par exemple, je vais prendre la famille des solanacées. La solanacée, c'est les tomates. Ben, on sait que pendant l'été, si jamais tu as des averses, ben, tu vas avoir des mildiou, donc des champignons. Donc, la mettant sous serre, on a une certaine protection, on peut gérer notre climat indirectement sous serre. De l'autre côté, la serre n'est pas la solution nec plus ultra. Pourquoi ? Parce que, tu vois, on a eu de la pluie ces quelques jours précédents, et bien je vais être quand même obligé d'arroser à l'intérieur de la serre.
Ouais, parce que donc, sous la serre, on n'en a pas profité. Ouais.
Voilà.
Donc, par contre, le climat est très intéressant, quoi, de souci.
Ah oui, oui, oui.
C'est humide ou autre.
On peut gérer notre climat de façon assez poussée, bien que en été, tu vois, sous serre, tu vas te retrouver avec des canicules et tu vas dire, mais comment je vais faire pour que sous serre, je réussisse à avoir quand même un peu de respiration. Donc, c'est là où viennent les techniques un peu permaculturelles, où tu vas créer des écrans de fraîcheur, voilà. Où tu vas créer des symbioses, des associations de cultures qui vont être symbiotiques pour pouvoir à la fois pas trop pomper ton sol et puis surtout apporter de certaines humidités. Nous, je vais prendre un exemple très simple, c'est que nous, typiquement dans nos allées de passage, on va mettre du broyat, parce que le broyat, il va faire quoi ? Il va garder cette humidité, ouais. Et qui va faire que ça va doucement restituer dans la culture qui peut être sous serre en plein été. Et ça, c'est intéressant.
Alors, on parle aussi de façon lasagne. Je pense que tu as déjà entendu parler ce thème. Il y en a même qui mettent du carton pour garder l'humidité. Tu prônes pour ça, toi, ou tu préfères justement ce qu'on a par terre là ?
Alors, je ne serais pas si dogmatique dans les pratiques culturales. Je sais qu'il y a, il y a certaines cultures ou pratiques qui peuvent se faire en fonction de, des ressources de chacun. Si on est un jardinier amateur, eh ben on pourra aller vers des choses qui sont à la fois longues à mettre en place, et ainsi de suite. Si on est professionnel, eh ben on va plutôt tendre vers une certaine efficacité. Comme tu dis, les cultures dites en but ont leurs avantages. Si tu es dans un terrain hygrophobe où tu as par exemple beaucoup, beaucoup d'humidité, eh ben tu vas chercher à justement monter un peu en altitude pour éviter que tes racines elles soient dans ces environnements-là. Donc chaque condition de ton terroir va donner une technique qui va être plus ou moins la mieux adaptée. Donc oui, c'est une, comme je te disais, une énorme boîte à outils où l'expérience, mais ça ne veut pas dire forcément le gars qui a 40 ans d'expérience, c'est-à-dire que tu sens aussi, tu sens le coin aux champignons. Tu n'as pas besoin d'avoir fait, tu sens, là, ça sent bien, ça sent l'humus, ça sent la forêt, ouais, je vais aller aux champignons là. Et bien là, pareil, on se dit, ok, j'ai mon sol, j'ai des plantes, ce qu'on appelle bio-indicatrices, qui vont me dire, là, tu as un sol où tu as beaucoup de matière organique, ou là, tu as un sol qui est pauvre. Donc oui, ça va induire après une certaine culture.
Donc il y a de la diversité, là, par exemple, on le voit ici. Alors, oui. On a un mélange de plantes, on mélange un peu tout, quoi. Oui. Comme ça, on a les insectes qui se mélangent ou autre. On crée un peu le climat d'une forêt, quoi, tout simplement. Et après, on laisse faire.
Oui.
C'est ça. Hein.
C'est exact.
Donc là, tu fais exactement la même chose.
Exactement. Moi, j'aime beaucoup utiliser cette notion de la forêt. Parce que la forêt, elle n'a pas besoin de toi,
non.
Elle n'a pas besoin de moi, elle sera sûrement, si on ne la détruit pas, encore là, après nous. Et cette forêt-là, elle a su se régénérer toute seule. Elle a su dire à certaines variétés, c'est plus possible parce qu'il n'y a plus assez d'ensoleillement, donc on va plutôt faire une autre variété, ainsi de suite. Et bien dans notre serre, on va faire la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, là, on est sur une exposition, le soleil est au-dessus de nous, donc on va plutôt prendre une plante qui est à basse altitude en premier, puis une plante qui est un petit peu plus en haute altitude de l'autre côté, comme ça, elles auront toutes les deux le soleil. J'aurais fait l'inverse, j'aurais mis par exemple une plante de haute altitude en premier, et de l'autre côté, eh bien, j'aurais pas eu l'ensoleillement. Mais ça m'aurait peut-être permis de mettre une salade, tu vois, de l'autre côté, qui, elle, n'a pas besoin d'avoir un gros ensoleillement. Donc, on va chercher à chaque fois à combiner sur les aspects verticalité, mais aussi sur les aspects...
horizontalité.
À gradation du sol. Ouais. C'est-à-dire que si jamais je sais que la pomme de terre, elle a besoin beaucoup d'azote, eh bien, je vais mettre une fabacée derrière. C'est une famille bien particulière, dont les pois, les haricots, les choses comme ça. Ben, elle a cette famille-là, elle a la capacité d'attraper l'azote de l'air et de le fixer dans le sol, qui va permettre une symbiose avec la pomme de terre, si je prends cet exemple-là. Pareil, on va aussi chercher des symbioses vis-à-vis de la faune. Je sais que j'ai certaines familles qui sont très sensibles aux pucerons. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une sève qui est toute fraîche, une sève sucrée. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais mettre certaines plantes en entrée de serre ou sur les côtés de serre qui vont se faire cannibaliser par le puceron en lieu et place de la plante qui, elle, est une plante où je vais chercher du rendement. On regarde en entrée, là, on les a taillées, mais on avait mis du thym. Pourquoi ? Parce qu'avec ce système d'ouverture de serre, quand le ravageur va arriver, il ne va pas sentir quoi ? La pomme de terre ? Il va sentir le thym. Et donc, en permettant cette chose-là, ben, j'utilise l'effort et je dirais la qualité d'une plante, qui est le thym, avec ses arômes, pour éviter que le ravageur se dise il y a la tomate ici, ou il y a la pomme de terre. Et ça m'évite, moi, de l'effort. Et c'est un peu la technique du judo, hein, c'est utiliser la force de l'autre pour le renverser. Voilà. Ouais. Donc moi, j'utilise la force de la nature pour éviter de mettre de la chimie.
Et ça, tu l'as appris par expérience ou tu l'as appris sur le banc de l'école ?
Alors, pour ma part, je l'ai appris sur trois vecteurs. Un, sur le banc de l'école, parce qu'on ne devient pas maraîcher, même si c'est très romantique comme métier. Hein. Non, on ne devient pas maraîcher comme ça. Il y a de l'expérience.
Et il y a des études derrière.
Il y a des études. Et je voudrais dire par là que tous les porteurs de projets, c'est très romantique de faire du maraîchage. Mais si vous vous loupez dans vos carottes, vous ne pouvez pas relancer tout de suite des carottes. Ce n'est pas comme un porteur de projet. Non, c'est l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se louper. Et donc, il y a des techniques à apprendre, c'est évident. La deuxième chose, j'ai énormément appris avec des gens du métier. Tu vois, je suis allé à des fermes de mon territoire. Je suis allé voir comment ils cultivaient chez nous, en Haute-Savoie, dans une terre dite argileuse, dans une terre dite impropre au maraîchage. D'ailleurs, si on n'a que des vaches ici, c'est parce que c'était plus compliqué. Donc, je suis allé voir ces gens-là, qui sont des gens exceptionnels, méritants, bref. Et puis, je suis allé aussi dans des fermes qui sont un peu atypiques. Dans des fermes qui sont parties un peu comme moi, si tu veux, des gens qui ont quitté leur métier, ils ont pris un peu des chemins de traverse, donc des chemins un peu comme se faisaient les maraîchers parisiens du début du siècle, tu vois. Et notamment, je suis allé à la ferme du Bec-et-Loin. cette fameuse ferme qui est dans le film Demain, qui est une ferme aujourd'hui qui est pour moi, qui a relancé des techniques qui étaient prises des maraîchers parisiens du début du siècle. Et c'est très intéressant parce qu'on reprend les techniques anciennes mais avec des outils nouveaux. Et ça, c'est super intéressant. Et des gens qui font aussi de l'agroforesterie. Et ce cluster de petites choses m'a amené à ma palette de couleurs qu'aujourd'hui j'utilise pour chez nous.
J'ai vu que tu produisais, toi et ton équipe, environ 4 tonnes et demie à peu près de fruits et légumes. Ce chiffre est toujours constant ou...
Alors là, 4 tonnes et demie, c'était la première année. Maintenant, on est à 6 tonnes et demie l'année dernière. 6 tonnes et demie, et ça, c'est pas biaisé, si tu veux, ce poids-là n'est pas biaisé par ni la mesure de la masse de tout ce qui est courge, ni pomme de terre. Parce que t'imagines, tu fais 400 kg de courge face à du haricot, pomme, mange tout.
Bien sûr.
Donc non, on n'a pas voulu mettre ça dans la balance. Et ce qui montre que a priori, vis-à-vis des moyennes nationales ou des moyennes qu'on pourrait avoir dans une ferme non diversifiée, on a des choses assez intéressantes. On a des choses qui peuvent se poser la question de ouais, ça peut être intéressant. Néanmoins, il y a quand même énormément de travail. Tu vois, la technique culturelle qu'on a ici, elle nous interdit la mécanisation. Une mécanisation qui viendrait prendre mes petits pois d'un coup d'un seul, ou une mécanisation qui viendrait prendre les pommes de terre toutes seules.
C'est tout à la main.
Voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail manuel,
ouais, ouais,
d'où ces petites surfaces. Et là, moi, c'est un message fort que j'aimerais donner, c'est de dire qu'on n'est pas en opposition vis-à-vis de cultures sur grandes surfaces. On est en opposition vis-à-vis de la façon dont elles sont faites.
Ouais.
C'est-à-dire que je ne vais pas m'opposer à l'agriculteur qui, lui, fait 45 tonnes de pommes de terre. Il doit les faire et sans lui, on n'arriverait peut-être pas à manger. Mais la façon dont il le fait aujourd'hui, eh ben, elle n'est pas agradante. Elle n'est pas dans une dynamique où la terre, elle va s'épanouir. Mmh. Chaque année, on regarde les rendements blé, eh ben, les 110 quintaux de blé à l'hectare, on ne les a plus. Même si je mets toujours de plus en plus de chimie. Donc, il y a des questions à se poser. Et ces questions-là, je ne peux pas te dire que j'ai les réponses. Et je pense qu'elles viendront des professionnels qui sont déjà dedans. Mais il faut se les poser. Parce que ce n'est pas quand on sera au pied du mur qu'on n'y arrivera plus.
Mais je pense qu'on l'est quand même au pied du mur, parce qu'on est quand même dans une surproduction. Et on le disait, il y a énormément de gâchis à l'échelle mondiale.
Bien sûr.
Alors que toi, ici, tu gères, quoi. Par rapport à l'agriculteur qui, lui, va faire des tonnes et des tonnes parce qu'on lui demande de faire ça, quoi.
Tout à fait. Mais là, le levier, il n'est plus sur les mêmes personnes. Le levier de dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai environ 20 à 30% de la production alimentaire mondiale qui est jetée par non-consommation. Eh bien là, c'est le citoyen acteur qui doit raisonner différemment. Et de l'autre côté, on a aussi une autre façon de produire où ben, si demain on a besoin de 20 à 30% de moins parce que ce n'est pas des choses qui ne vont pas être jetées, et ben là on peut raisonner différemment.
Mmh.
On peut raisonner plus en compatibilité avec la nature. Et ça, pour moi, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut penser. Il faut aussi revaloriser l'effort que l'agriculteur il doit faire pour avoir son fameux poireau au bout de 7 ou 9 mois, qu'il a buté 3 fois, qu'il a désherbé énième fois, qu'il a lavé machin. Et ben, si tu le vends 99 centimes le kilo, eh bien, moi, je n'ai pas le sentiment que l'effort, il est à sa juste valeur.
Bien sûr.
Et de faire ça, ça fait quoi? Si on continue dans cette démarche-là, eh bien, ça fait qu'il y a des gens qui dorment au cul du champ, dans des tentes au cul du champ.
Mmh.
Ou des gens qu'on fait traverser une mer et qui vont dormir la misère de leur pays, ils leur retrouvent dans un autre pays. Et ça, ce n'est pas viable. Et ce n'est pas permaculturel.
Non, pas du tout.
C'est-à-dire, ouais. Tu ne prends plus soin des hommes.
Ouais.
Tu peux dire, bah, je prends soin de la terre, je suis en bio. Ben non, mais tu ne prends plus soin des hommes. Et tu ne partages pas équitablement.
Puis ni de la terre, parce que tu la traumatises une fois par an. Donc,
c'est pas le truc.
Tant que toi, tu la laisses vivre, cette terre ici. Quoi.
On essaye de travailler en symbiose. C'est-à-dire que oui, ok, elle va me produire quelque chose qui va servir à une commercialisation, mais demain, je ne suis plus là. Demain, ce n'est pas une terre qui est morte.
Et toi, les produits que tu produis, justement, si tu as des déchets, hop, tu les mets en compost.
Oui.
Il y en a d'autres, certaines productions, si on parle de la production animale, tu dis qu'il y a au moins 20% de déchets, tu te rends compte, à l'échelle mondiale, quoi. Ça veut dire que voilà, on aura tué un animal pour rien ou autre, alors que toi, tu redonnes vie à ton légume qui aura pourri ou qui n'aura pas été vendu, etc. Quoi. Tu le mets en compost et hop, ça sert d'engrais, c'est reparti. Quoi.
On cherche énormément, sans... Là, je ne critique pas du tout le modèle animal, ce n'est pas mon propos et puis je n'ai pas du tout les compétences pour, mais on cherche toujours à être circulaire. Tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de toujours mes copeaux ouais. de bois, tu vois, que je mets. Eh bien, c'est les élagueurs du coin. Au lieu de vendre, enfin pas de vendre, de remettre en valorisation les copeaux de bois, qui peuvent être brûlés ou ainsi de suite, ben non, on le remet dans une culture. Et on cherche systématiquement à être circulaire. pour pouvoir me dire, bon, ok, là, ça, c'est une matière première, je l'utilise. Mais toujours l'utiliser dans une façon qui est intelligente, parce que tu peux créer des déchets qui sont compliqués à gérer. Par exemple, des déchets qui vont générer des maladies. On va faire toujours attention pour avoir une stérilisation des déchets qui font que quand tu le réinjectes dans ton sol, eh ben, tu ne vas pas créer un pire qu'un bien. Donc il y a une réflexion. Moi, je viens d'un parcours ingénieur et j'ai été surpris, et à un niveau impressionnant, de la réflexion nécessaire. Je suis sidéré à chaque fois de me dire, mais il faut vraiment réfléchir. C'est, en anglais, il dirait presque rocket science. Quoi, tu vois,
Du compost, donc toi tu en fais. Oui. Est-ce que des particuliers t'en apportent ?
Alors au jour d'aujourd'hui, on a une pratique qui est assez vertueuse, qui me plaît assez bien. C'est-à-dire que quand les gens viennent à la vente chez nous le samedi de 9h30 à midi, ils peuvent également amener leurs épluchures de la semaine. Ils le mettent dans nos bacs de compost. Nous, nos bacs de compost, eh ben, ils sont valorisés avec la biodiversité qui va se nourrir de ça. Et après, on peut le remettre en culture une fois qu'il y a eu ce temps nécessaire de compostage.
C'est génial ça. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont du temps de libre ? Qui viennent te voir, disent tiens, j'aimerais bien vous aider, là, j'aimerais mettre un peu les mains dans la terre ou autre. C'est déjà arrivé ça ?
Alors nous, on fait beaucoup de portes ouvertes parce que cette volonté, on la sent réellement, cette volonté du citoyen de dire mais qu'est-ce que c'est ? Mais j'aimerais bien toucher un petit peu cette chose-là. Et les portes ouvertes sont des moments particuliers où les gens peuvent venir chez nous et ils voient comment on fait.
Ils visitent le site.
Ils disent, tiens, c'est comme ça, tac. Et on est vraiment dans cette dynamique. Et c'est ce qui fait que le projet Ceux qui s'aiment est un projet qui doit être en cœur de ville, parce qu'on cherche bien sûr à produire, mais pas qu'à produire. On cherche surtout à faire passer cette petite graine dans l'esprit des gens, de se dire, bah oui, c'est possible. Ben oui, regarde, tu peux apprendre des choses ici. Voilà. Et de cette pédagogie-là, on ira peut-être demain vers des notions qui sont différentes.
Mais il y a quelque chose qui symbolise bien tout ça, c'est que le portail est tout le temps ouvert.
Ah oui, ouais.
Toi, à chaque fois que je passe devant, c'est ouvert. Donc voilà, c'est rentré, bonjour, vous pouvez rentrer. Ouais.
C'est l'essence même du projet. C'est-à-dire que notre volonté, elle était bien sûr de produire et avoir une légitimité dans le propos. C'est-à-dire que moi, je vais te parler des pommes de terre, mais j'en ai planté des pommes de terre. Je sais exactement. Je vais te parler de ça, mais parce que je sais. Quand je ne sais pas, je te le dis. Je dis non, je n'ai pas la compétence. Et d'être en cœur de ville, eh ben, cette légitimité du propos, eh ben, on va pouvoir la dispenser, la diffuser à un maximum de monde. De pouvoir dire, ben, demain, ouais, ok, j'ai un potager de 1 mètre carré sur mon balcon, et qu'est-ce que je fais ? Ben, j'ai appris à ceux qui s'aiment que je pouvais faire ça, puis une symbiose avec ça, puis ça, voilà, voilà, voilà. Ça, c'est un truc qu'on veut faire. On veut que les enfants qui ont un parcours un parcours pédagogique écologique dans Annecy, ils puissent s'inspirer et se dire « Ah ouais, j'ai vu que la tomate, c'était pas en 15 jours que j'avais le fric alors que je mettais la graine. » Et ça, tu vois, ça c'est quelque chose qui va au-delà de la production. Et c'est toute l'utilité d'être en cœur de ville.
Est-ce que tu as des écoles qui viennent pendant les jours de classe, et est-ce que tu sens que les gamins sont vraiment... intéressé par la PERMA ?
Alors, au-delà de la PERMA, ils ont une appétence particulière vis-à-vis du vivant. Tu vois pas un gamin qui va passer à côté d'une coccinelle qui dit pas « Ah, il y a une coccinelle !» Ça, c'est pas possible. Et là, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de changer le fait « Oh, j'ai peur, j'ai une coccinelle, je vais l'écraser ou même je vais la toucher » en disant « Regarde, cette petite bête-là, c'est la biodiversité. Pourquoi elle est là ? Ah, parce qu'il y a des pucerons. » Ah, t'inquiète. Donc si jamais tu la tues ou tu l'embêtes, cette petite bête-là, regarde ce que ça fait, la chaîne. Et on essaye de rentrer cette faune, cette biodiversité, dans un maillon où l'enfant, il comprend à quoi ça sert. Que l'abeille, c'est pas seulement la chose qui fait que du miel ou qui pique. Eh ben non, l'abeille, elle sert de pollinisateur. Et quand on fait rentrer l'enfant dans tout ça, ben, je trouve qu'il a une compréhension plus globale de cette chose-là. Et là, on peut rentrer dans une idée de permaculture, parce qu'il sait que s'il enlève ce maillon-là, ben, la chaîne devient plus permanente. Et ça, moi, je trouve ça intéressant. Enfin, c'est notre vocation.
Il y a beaucoup d'écoles qui viennent et tout. Quoi. Donc, ça, c'est quelque chose que tu fais en plus de ton travail. Voilà, ouais. Mais c'est un plaisir partagé.
Ah oui, nous
transmettre.
Ben, moi, de ma part, oui, c'est un réel plaisir. Et c'est plus qu'un plaisir, c'était pour moi mon devoir. Et de voir les enfants qui reviennent avec leurs parents le samedi matin, maman, regarde, ça c'est mon endroit que j'ai planté. Il y a une certaine fierté. Il y a une fierté du gamin de voir le travail réalisé. Et on est sur la chaîne du portail cru. Quand je prends un haricot et que je le mange cru et que je dis aux enfants, regardez comme c'est. Et il y a des gamins qui me disent, mais moi, j'ai jamais mangé ça. Ah, tu te rends compte, c'est même pas cuit. Et qui se rendent compte comment c'est sucré, comment c'est croquant, tu vois. Ah ben, maman, on les achète crus, quoi.
Voilà, voilà. C'est ça.
Donc ça, ouais, ça, c'est une certaine satisfaction.
Ouais, il y a la rencontre du, ouais, justement, du produit cru, quoi, tout simplement, qu'on n'a pas besoin de chauffer. Et il y en a énormément, justement. Et puis, ben, il y a des produits qu'on peut réaliser en jus aussi. Hein. Mm-hmm. Je vois que tu fais des poivrons à une période, par exemple.
Oui, on avait fait pas mal
du concombre, choses. Des courgettes, mm-hmm. voilà, tout ça, c'est très, très bon en jus. Et voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas, justement, quoi.
Notre vocation aussi sur le cru, mais autre le cru, puis sur tous nos légumes, on fait des ateliers l'été qui s'appellent de la grelinette à l'assiette, où on aura dans cet atelier-là, on va amener un certain public vers la compréhension, la connaissance d'un produit. Je prends l'exemple de la betterave, où on va faire une soirée où on aura 45 minutes de botanique. Quand est-ce que c'est la bonne saison, la betterave? Comment je sais comment reconnaître une bonne betterave? Quelle betterave pour tel et tel choix? Et puis après, tu as un chef, un jeune chef, qu'on prend partout dans le monde. Il y a énormément de jeunes restaurateurs qui voudraient que leur établissement soit connu. Ils viennent et ils nous font entrée, plat, dessert avec la betterave. Donc entrée compris, voilà, c'est un plat, ça devient un peu plus punchy, mais un dessert.
Dessert.
Excellent. Et les gens, ils repartent avec des techniques, ils repartent avec des on parlait de cru, ils disaient, bah ouais, une betterave crue en dessert, bah jamais j'aurais pensé ça. Et ben, marié avec un chocolat, toujours dans cette idée de faire des choses qui sont à la fois éthiques et durables, et ben tu repars avec des compétences, une volonté forte de reproduire ça chez toi, et puis surtout dans une communauté, tu fais partie d'une communauté. Et cette communauté, elle est très importante parce qu'elle va te permettre d'aller plus loin.
Bien sûr. Donc, on a vu, il y a des ateliers qui sont organisés là tout au long de l'année, ça c'est bien. Atelier lactofermentation, donc des visites. Et c'est quelque chose que vous avez instauré, vous, ou ça a été une demande? Tu sais ça, comment c'est venu?
Oui, bien sûr. Dans notre projet initial avec Marie, il était la partie pédagogique est une partie vraiment aussi prépondérante, aussi importante que la partie production. Et pour avoir un éventail de toutes les techniques qui sont virtueuses, c'est-à-dire pour ne pas faire de déchets justement, eh bien, il y avait l'idée de faire des ateliers en lactofermentation que nous avons fait, l'idée de aussi savoir comment tu cuisines mieux tes légumes, ou tout simplement tu les manges crus, mais comment tu les utilises au mieux, à la fois pour ta santé, pour le légume. Donc c'est pour ça qu'on a fait de la grelinette à l'assiette. Et les troisièmes ateliers qu'on a fait sont des ateliers pédagogiques, tout simplement. C'est comment je fais pour cultiver.
Est-ce que tu manges cru, toi?
Ah ben bien sûr, les haricots crus, c'est ce qu'il y a de mieux.
C'est ce qu'il y a de mieux, on est d'accord. Ah, ouais.
Mais je ne suis pas non plus dans une dynamique de dire je fais tout blanc, tout noir. Je varie et je vais au mieux à la fois du légume et de moi par rapport à mes aspirations, mes attentes à ce moment-là.
La permaculture, on l'a dit, c'est aussi de créer un écosystème harmonieux, productif et autonome. On l'a vu du côté de la terre, et je me pose la question, et une bonne question parce que je connais la réponse, mais elle est super intéressante. Est-ce qu'un chef d'entreprise, il peut faire la même chose dans son entreprise pour justement donner de l'harmonie, de la productivité auprès de ses salariés? C'est le même procédé quelque part?
Alors tout à fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi de montrer que cette éthique, en fin de compte, de prendre soin de la terre, prendre soin des hommes, et partager équitablement, eh ben tu peux le voir avec le prisme de l'entreprise. Si on considère que les employés sont une ressource, et là c'est pas péjoratif quand je parle de ressources, mais sont une ressource qui vont dans le sens de l'entreprise de créer un capital, eh ben tu te poses la question, quel est le vecteur, l'aspect moteur? Est-ce que c'est de créer du capital et d'utiliser la ressource? Mais dans ces cas-là, c'est comme si j'utilise ma terre que pour les mêmes ressources, et dans ces cas-là, elle va s'appauvrir. Ou est-ce que l'objectif, c'est toujours faire du capital, mais en conservant ma ressource? Et dans ces cas-là, ben, tu rentres vers des techniques qui sont des techniques de symbiose, comme on a ici, c'est-à-dire comment je peux faire pour que ma ressource soit conservée et qu'elle s'aggrade, qu'elle devienne de plus en plus heureuse, virtueuse, et qu'indirectement, mon capital, la chose que je vais sortir de ce travail-là, ben, ce n'est pas forcément que j'en produise plus, mais qu'il ait une plus belle valeur, une plus forte valeur. Moi, je parle toujours de notion de robustesse, qui est quelque chose de robuste. C'est-à-dire que s'il y a un aléa, eh ben, que mon capital ne diminue pas. Je vais prendre l'exemple de la biodiversité, ici, qui va faire vraiment un beau parallèle avec l'entreprise. J'ai un ravageur. J'ai un ravageur, donc il va consommer ma ressource. C'est-à-dire que mon plant de patates, au lieu de faire 1 kg de patates, il en fera plus que 500 grammes si j'ai un ravageur qui le consomme. Eh bien, si jamais mon système il n'est pas robuste, c'est-à-dire que si tu imagines que mon ravageur c'était une chenille, mais que je n'ai pas la mésange qui vient manger la chenille, ben oui, j'ai mon capital qui est péjoré. Je prends l'exemple de l'entreprise. Si je demande à mes employés de travailler forcené, de faire des heures sup et ainsi de suite, mais que cette ressource-là, eh ben, je ne lui donne pas une certaine compensation, qui ne soit pas forcément une compensation financière, attention, je ne parle pas, eh ben, ça veut dire que moindre aléa, ma ressource elle va se mettre en shutdown, elle va tomber, et du coup, mon capital il va tomber. Tandis que si j'ai créé dans ma ressource une polyvalence, une polycompétence, une appétence à travailler sur quelque chose, eh ben, il peut y avoir un aléa, mais le système est robuste. Et donc, le capital est assuré.
Ah, j'aime assez ce parallèle parce qu'il est vraiment, vraiment parlant. Et ça, c'est des choses que tu enseignes quand tu as le temps, quoi.
Alors, nous, sur la permaculture dite humaine, c'est des choses qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le temps nécessaire de le mettre en... Enfin, pas de le mettre en place, mais de le diffuser. J'ai eu l'occasion de le faire dans le passé sur plusieurs autres fermes, plusieurs autres occasions. Mais c'est quelque chose qui me tiendra à cœur de diffuser. Pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui que l'utilisation de la ressource, une fois de plus, ce n'est pas péjoratif, mais de la ressource dans le monde de l'entreprise, est quelque chose qui peut être fait de différentes façons. Et une façon virtueuse te donnera une assurance de robustesse de capital. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, qu'avec les brown-out, les burn-out, et toutes les maladies liées au travail, qu'on n'est pas forcément dans ces valeurs-là.
Oui, d'accord. Ah, il y a du boulot à ce niveau-là. Il y a du boulot. Merci beaucoup. On pourra en discuter... des heures et des heures, sauf que tout ça, bah, ça demande beaucoup, beaucoup de travail à toi et ton équipe. Alors, ceux qui s'aiment, pour ceux qui habitent sur le bassin annécien en Haute-Savoie, je rappelle, il y a la vente des produits tous les samedis matins, hein, oui. C'est-à-dire que vous récoltez et autres, et puis bah, les gens viennent le samedi matin, vous achetez directement au producteur, et puis on le voit sur ces images-là, justement. Et puis, bah, voilà, c'est du cru, c'est du frais, ça vient d'ici et nulle part ailleurs. Ceux qui s'aiment, c'est aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il y a de belles photos. Comme ça, on vous mettra aussi au courant de tous les ateliers qui sont proposés tout au long de l'année. Merci beaucoup pour ton travail, mon cher Sylvain.
Merci.
À toi et ton équipe.
Merci.
Bonne suite.
Voilà. Toutes ces belles initiatives.
Ceux qui s'aiment, voilà, on voulait vous présenter, eh bien, du cru. Dans une permaculture, il y en a une ici, mais il y en a un peu partout en France, dans le monde, et pourvu que ça se développe de plus en plus. À très bientôt sur le portail du cru. Salut Sylvain.
Ciao.